Il est temps de recevoir Salim. Salut Salim.
Salut.
Salim, tu es membre de l'Union des étudiants et étudiantes de Toulouse.
C'est
tu viens nous parler d'une occupation qui dure depuis maintenant 15 jours à l'université du Mirail. On dit Jean Jaurès aujourd'hui. Alors, ce n'est pas toute l'université qui est occupée, hein, ça a pu arriver. Mais là, en l'occurrence, c'est la salle du conseil, hein, donc là où se tiennent les conseils d'administration de la fac. Alors, on va détailler le pourquoi de cette occupation. Mais d'abord, peut-être dire un mot, si tu le veux bien, nous resituer. Qu'est-ce que c'est l'Union des étudiants et étudiantes de Toulouse ?
Alors l'Union des étudiantes et étudiantes de Toulouse est un syndicat militant qui existe depuis bientôt 3 ans sur l'université du Mirail, qu'on appelle maintenant Jean Jaurès. C'est un syndicat qui travaille tous les jours avec les étudiantes et les étudiants sur le campus, et c'est en rencontrant les premiers usagers et usagères du campus, c'est-à-dire les étudiants, qu'on choisit sur quoi on travaille. Donc on a eu différents types de campagnes, on a travaillé sur des problèmes très complexes comme le harcèlement sexuel ou alors des problèmes un peu plus courants comme des étudiants qui ne peuvent pas s'inscrire dans des cours ou des problèmes d'emploi du temps, etc. Voilà.
Peut-être un mot quand même, c'est vrai qu'il y a eu ça s'est pas mal redessiné, hein, notamment à l'université Jean Jaurès, mais même dans toutes les facs toulousaines, le paysage syndical étudiant. Il y a quelques années, on connaissait quand même l'AGET, l'AGTSE, devenue l'AGTFSE, puis qui a fusionné dans Solidaire, puis enfin tout ça change beaucoup. Qu'est-ce qui fait, est-ce que tu sais un petit peu, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu besoin à un moment de créer ce nouveau syndicat, l'UET ?
Alors je sais pas, moi je suis néo-militant, ça fait tout juste un an que je milite. Ce que je peux en dire de manière naïve, je peux parler de mon expérience, c'est qu'à un moment j'ai rencontré des problèmes, il y a des choses qui me semblaient pas normales dans le fonctionnement que l'université pouvait avoir. J'ai cherché des interlocuteurs et j'ai rencontré les camarades de l'Union des étudiants de Toulouse. Voilà.
Très bien, on va revenir donc dans le vif du sujet, à savoir cette occupation depuis le mardi 24 octobre, hein, donc je disais, ça fait 15 jours pile poil aujourd'hui, c'était avant les vacances de la Toussaint, la rentrée c'était hier, le bâtiment est toujours occupé, enfin le bâtiment, très exactement la salle des conseils, je l'ai dit, hein, là où se tient le conseil d'administration. D'ailleurs l'occupation a démarré pendant un conseil d'administration, hein, d'abord les membres de l'UET, mais aussi d'autres étudiants et étudiantes sont venus empêcher la tenue de ce conseil d'administration et ont décidé de rester. Qu'est-ce qui se passe ? Tu disais tout à l'heure que vous travaillez des fois sur des problèmes d'inscription, et là c'est le cas.
Oui, alors en fait pour reprendre et resituer un peu ce que tu disais, donc l'UET mène une campagne pour les étudiantes et étudiants sans fac tous les ans, depuis bientôt 3 ans, sur le campus du Mirail. Cette année, l'envahissement et l'occupation des locaux de la présidence et notamment de la salle du conseil, ça a été un peu le point culminant de cette campagne sans fac que nous on a menée cette année, qui a commencé depuis la réouverture du campus fin août, du coup le 28 ou le 29 août si ma mémoire est bonne. L'Union des étudiants de Toulouse, avec un collectif d'étudiants et d'étudiantes mobilisés et les étudiants et étudiantes sans fac, en sont arrivés à cette décision commune face à l'urgence de la situation. Tu le rappelais tout à l'heure, les cours avaient repris depuis septembre. On était à une semaine des vacances de la Toussaint et on avait encore une petite centaine d'étudiants qu'on n'arrivait pas à inscrire. Donc ça nous paraissait problématique. La campagne sans fac, elle a été d'une rare difficulté pour nous cette année. Donc, on a décidé d'engranger un rapport de force un peu plus important. Donc, on a envahi le conseil d'administration donc le 24, comme tu le rappelais tout à l'heure. Le but, il était simple. Le but était d'interpeller, de visibiliser le problème, d'obliger l'université et la direction de l'université, notamment, à prendre ses responsabilités et à se ranger de notre côté pour faire entendre et prendre en charge ses étudiants et étudiantes. Lors de cette séance du conseil d'administration, le CA qui s'est pas tenu, il y avait une interlocutrice du rectorat qu'on a pu interpeller, mais qui ne nous a pas donné de réponse vraiment satisfaisante. Alors on a décidé d'occuper avec un message clair, on occupe tant qu'on n'obtient pas l'inscription de toutes et tous à l'université. Cette situation-là, elle est... Il y a une coupable toute désignée, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est la loi sur la sélection qui a été votée en décembre 2016 entre la licence et le master. Couplée avec les problèmes de cet été dont on a entendu, dont on a tous entendu parler sur le contingentement à l'entrée des licences, etc. On a donc décidé pour obtenir un droit en fait qui est celui à toutes et tous à avoir accès à la formation dans la filière de leur choix d'occuper les locaux de la présidence.
Il y a un mot qu'on a pas mal entendu dans les médias de masse, c'est APB, administration post-bac.
Application
ouais. Pardon, post-bac, et c'est tout simplement la mise en place de tirage au sort à l'entrée de la fac, et ça a posé pas mal de problèmes aussi.
Ouais. Ouais, alors feu admission post-bac, parce que le gouvernement a décidé, dans sa grande sagesse, de supprimer l'application. Je dis sagesse avec ironie. Hein.
Il faut dire que la mauvaise publicité était omniprésente là, hein, autour de l'APB. Le nombre de problèmes qui se sont multipliés à travers la France est impressionnant.
Hein. Oui, c'est dommage d'ailleurs de réduire la mauvaise publicité de l'accès à l'université à cette question-là. En fait, le problème, il est celui de la politique d'austérité qui sévit sur le service public depuis des années maintenant. J'insiste sur politique, ça veut dire que c'est un choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement choisit de faire peser sur le service public une austérité en termes de moyens qui se répercute du coup en termes de capacité d'accueil, de professeurs, de places, de locaux, etc. Donc cette situation-là, elle découle d'un choix, c'est-à-dire qu'on dessine un peu quel type de société, c'est-à-dire quel type d'université, parce que selon nous, les deux vont avec, on veut, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que tout le peuple ait accès à la formation et au savoir, ce qui est le but de l'université. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on fait peser sur le service public et les universités une austérité, et on donne aux universités, aux instances, des outils bien dégueulasses, comme le contingentement, comme la sélection, pour évacuer un maximum d'étudiants et d'étudiantes du cursus universitaire.
Alors, dans ces étudiants sans fac, étudiantes sans fac, il y a plein de gens qui ont subi les nombreux problèmes hein, à Toulouse comme ailleurs liés au tirage au sort sur APB. Mais tu as dit aussi, c'était aussi la sélection à l'entrée du master qui s'est durcie. Et alors, ce n'est pas sans poser des problèmes, des fois des problèmes plus graves pour certains étudiants et étudiantes. Bon, ne pas pouvoir s'inscrire dans un master, c'est déjà un problème en soi. Mais certains, en l'occurrence, sont des étudiants, étudiantes étrangers, étrangères, et donc le fait de ne pas pouvoir s'inscrire les empêche de renouveler leur titre de séjour.
Oui.
Et donc ils se retrouvent tout simplement sans papier, avec un risque d'expulsion au-dessus de la tête.
C'est ça. Alors il y a tellement de choses à dire, donc je recule un petit peu, parce qu'il faut quand même revenir un petit peu sur cette loi sur la sélection en master qui a été votée en décembre 2016. Cette loi, déjà sur la forme, elle a été votée en cours d'année universitaire. Moi, c'est un truc qui m'a toujours choqué, c'est-à-dire qu'en cours d'année, on a dit à des étudiants, le contrat sur lequel on s'était engagé avec vous en début d'année, il est en train de changer en cours de route. Ça a posé pas mal de problèmes, et ça s'est vu à l'échelle nationale. Moi, j'avais des camarades ou des amis, tout simplement, sur Paris ou sur d'autres facs, qui me disaient qu'ils étaient dans le flou total, c'est-à-dire que les universités étaient en train de changer les modalités d'accès à l'année supérieure, etc., en cours de route. Donc déjà sur la forme. Ensuite, effectivement, ce qu'on constate, c'est que de fait, en fait, cette loi, elle est discriminante. Qui pâtit de la mise en place de cette sélection ? Eh bien, c'est les précaires, en fait. Les précaires, c'est comme tu le rappelais tout à l'heure, les étudiantes et étudiants étrangers, qui font face à des problématiques qui sont parfois propres à leur situation et du coup ne sont pas forcément dans les mêmes dispositions pour suivre les cours qu'un étudiant qui aurait, ou une étudiante qui aurait papa, maman derrière, et voilà. Mais on a aussi des étudiants et étudiantes en situation de handicap, par exemple. Les étudiants et étudiantes salariés, qui eux donc sont obligés de payer pour suivre leurs études, et une fois qu'ils ont une licence, on leur dit c'est pas possible, tu vas probablement finir ta vie à ton taf de merde à McDo ou à Lidl. Donc voilà, on a les étudiants et étudiantes en reprise d'études, on a des gens qui ont 30, 35 ans, 40 ans, qui reviennent à la fac et qui ont d'autres enjeux à côté, qui ont des vies de famille, etc., qui sont pas dans les mêmes conditions, donc c'est des conditions qui sont pas égalitaires, et la sélection en fait, elle ne prend pas ça en compte. Nous, on a travaillé avec des étudiants étudiants qui valident des licences à 12, 13, 14, 15, et on leur dit, vous n'avez pas le niveau, on ne vous prend pas. Cette sélection, elle est complètement opaque, elle rajoute des enjeux de pouvoir qui sont extrêmement dangereux pour des étudiants et des étudiantes qui sont déjà fragiles, et du coup, nous, on se retrouvait dans une situation, dans une impasse, où maintenant, les facs ont le droit légalement de fixer des capacités d'accueil, et donc légalement de ne pas prendre tout le monde. C'est un aveu de contradiction que nous on signalait avant même que cette loi ait été votée, et on voit dans les faits qu'effectivement on s'était pas trop trompé. La loi, elle prévoit deux choses: le droit à la poursuite d'études pour tous les étudiants et étudiantes, mais elle prévoit aussi que les universités peuvent fixer des capacités d'accueil et donc se réserver le droit de pas prendre tout le monde. Et ben, ce qu'on voit en fait, c'est que effectivement la deuxième partie, elle a été bien respectée, oui. Les universités, elles ont voté des capacités d'accueil. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le droit à la poursuite d'études, il n'est pas respecté. Et aujourd'hui, à Toulouse, mais aussi à l'échelle nationale, on a énormément d'étudiants et d'étudiantes qui restent sur le carreau, qui sont à la porte des universités, sans perspective d'avenir. Parmi eux, on a des étudiants et des étudiantes ressortissant de d'autres pays.
Alors attends, je précise quand même, puisque tu disais, hein, donc à Toulouse, c'est, en tout cas au Mirail, c'est, tu l'as dit, une petite centaine d'étudiants qui étaient concernés. Au niveau national, en tout cas, c'est les chiffres que j'ai trouvés. Juste avant les vacances de la Toussaint, il y avait 3700 étudiants en licence 1 qui n'étaient pas inscrits et 1200 en master
1003.
1.
1003, moi, c'est les chiffres que j'ai.
1003.
Ouais, oui, bon. Voilà. Donc voilà, ce qu'on constate dans les faits, c'est que cette loi-là, elle est discriminante et elle met en difficulté, elle précarise, elle met des étudiants en situation dangereuse, parce que qui dit pas de titre de, qui dit pas de statut étudiant pour ces étudiants-là et ces étudiantes-là, ça veut dire pas de formation déjà. Donc ça, c'est un gros problème. Mais ça veut dire pas de titre de séjour. Ça veut dire que OQTF, donc obligation de quitter le territoire français qui leur pend au nez. Ça veut dire pas de logement aussi, parce qu'il faut des papiers pour pouvoir louer un logement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de bourse, et en plus, ils ne peuvent pas travailler, parce que pour travailler, il faut des papiers. Enfin, bref, c'est la dégringolade, une fois qu'on respecte pas leurs droits à la poursuite d'études.
Comment ça s'est passé depuis 15 jours? Au départ, il faut le dire, hein, quand vous avez communiqué pour dire « bon, on occupe la salle du Mirail », vous disiez « on y restera la journée, peut-être un peu plus », mais l'idée, c'était quand même évidemment de trouver une solution rapide. Bon, deux semaines après, et retour des vacances, la salle est toujours occupée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé?
Ouais, moi je pense déjà qu'il faut souligner le courage de ces étudiants et étudiantes-là, qui en fait, c'est quand on s'est retrouvé à le vendredi avant les vacances, on a discuté entre nous, on s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on maintient l'occupation, etc. Et eux nous ont dit, voilà, nous on a un moyen de pression là. Là on nous voit, on nous entend, on fait attention à nous. Nous, ça fait plusieurs semaines qu'on vient sur le campus, on balade de bureau en bureau. Là, on nous prend au sérieux. Là, on nous dit effectivement, ce qui vous arrive, c'est pas normal. Alors, on aimerait qu'on lâche pas. Alors, du coup, le collectif, donc, parce qu'on parle de l'Union des étudiants de Toulouse depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas que des militants syndiqués, il y a aussi d'autres étudiants et étudiantes qui sont simplement mobilisés et sensibles à cette cause-là. Donc, on a décidé qu'ils soutiendront la démarche et que, du coup, on continuerait à occuper. Effectivement, on n'avait peut-être pas prévu que ça s'inscrive dans le temps, mais finalement, c'est pas une si mauvaise chose que ça, parce que on a, sur la première semaine d'occupation, le discours il est passé de « désolé, on peut rien faire pour vous » à « peut-être pour les masters, on peut vous proposer une année de césure ». Alors les premiers concernés et les premières concernées ont refusé, parce que cette année de césure-là ne leur garantit pas une poursuite d'études, en fait. Ça a réglé juste temporairement leur situation, et encore on n'en est pas sûr de ça, leur situation de potentiellement irrégulière par rapport à leur droit à rester sur le territoire français. Du coup, quand il a été constaté que nous, on lâchait rien, comme on avait prévu, la présidence a commencé à contacter d'autres directions d'université pour leur dire « Bon, écoutez, voilà, on a des étudiants qui sont en manque, qui ont besoin de formation, etc. Est-ce que vous pourriez pas les recevoir ?» Et donc là, en ce moment, on est plutôt sur cette négociation-là. On a deux universités qui se disent prêtes à recevoir la plupart des étudiants et étudiantes qu'on a. Il n'y a rien d'officiel encore, il n'y a rien de sûr. Moi et nous, on sera rassurés quand on les verra avec un certificat de scolarité. Donc en attendant, voilà, la dernière proposition qui est tombée, c'est celle-là, c'est-à-dire leur trouver une formation dans des facs alentours, quoi.
Oui, notamment, en l'occurrence, il y a 26, pardon, 36 personnes. Ah oui, parce que quand même, tu l'as pas dit, mais donc, du coup, quand même, ça a fait avancer cette lutte a permis déjà de trouver une formation pour pas mal de personnes.
Les L1, oui. Les L1,
Voilà.
oui, c'est vrai que je ne le dis pas. Mais c'est vrai qu'on parle des masters depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on a envahi tout à l'heure, je le disais, on était à une centaine de cas. La plupart des L1 étaient réglés sous 3 jours.
Voilà,
Il
c'est
me
ça, hein.
semble,
Donc
ouais.
quand même déjà, il y a une première victoire, cette occupation-là, c'est les licences qui, eux,
Voilà.
vont pouvoir retrouver une formation. Il reste quand même 36 personnes à ce jour, hein.
Voilà, c'est
Et
ça.
eux, c'est les masters.
C'est les masters. On a essentiellement des masters. Donc, pour la plupart d'entre eux, il y a cette proposition-là de changer de ville, du coup, qui est proposée. Une partie d'entre eux pensent accepter, mais il nous en reste quelques-uns qui soit ne sont pas intéressés par la formation qu'on leur propose, enfin, qui trouvent que c'est pas compatible avec leur projet professionnel, ou alors qui ne sont simplement pas en moyen de, d'ici la fin de la semaine, de bah, lâcher logement, si tant est qu'ils en aient, etc., et de changer de ville.
Oui, c'est ça, parce qu'on parle quand même, on parle de villes alentours, mais enfin les universités, évidemment, il n'y en a pas dans toutes les villes. Donc là, par exemple, il y a 26 candidats, candidates à la première année de Master Innovation Entreprise et Société, hein,
Inès, ouais.
l'INES, dont pas mal de personnes de nationalité étrangère, on l'a dit, avec tous les problèmes de papier que ça peut poser. Eux, on leur propose éventuellement d'aller se rendre à Montpellier, hein, à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Donc c'est vraiment changer de ville, hein. Évidemment, on n'est pas à l'autre bout de la France, mais enfin quand même, c'est comme tu dis, hein, c'est déménager. Et ça n'est pas sans poser quelques questions. Et en plus, tu l'as un petit peu suggéré aussi, la formation qu'on leur propose n'est pas forcément exactement la même que celle qu'ils auraient eue à Toulouse. Évidemment, c'est pas le même master. Hein.
Faut savoir que le rectorat et la loi le prévoyaient, c'est-à-dire que le rectorat, avant le 15 octobre, était censé proposer à ses étudiants et ses étudiantes-là un plan B sous réserve qu'ils fassent un recours. C'est-à-dire que la loi prévoit qu'en fait, on passe par une plateforme qui s'appelle trouvetonmaster.org.
Non, non extraordinaire.
Oui, voilà, j'ai mal à chaque fois que je le prononce. Et donc, le rectorat, en fait, est resté silencieux sur leur situation parce qu'en fait, on leur disait qu'en fait, il y a une formation qui correspond le plus à la formation qu'ils ont eue en licence et c'est le master qu'ils ne voulaient pas d'eux, celui de l'université Toulouse-Jean Jaurès. Donc, effectivement, y en a qui sont dans la possibilité de peut-être faire des compromis, etc. D'autres non. Surtout qu'il faut savoir que sur ces masters, sur ces étudiantes, on les appelle master 1 INES, mais en fait ils sont pas en master, ils sont juste licenciés, c'est-à-dire qu'ils ont juste la licence.
Oui, ils veulent rentrer en master.
Voilà. Mais faut savoir que cette licence, on leur a imposée, c'est-à-dire que quand on est étudiant ou étudiante étranger, il y a une procédure qui s'appelle Campus France. Et en fait, il y a eu un couac. C'est-à-dire qu'on leur a dit, vous voulez faire ça, ben très bien, vous pouvez vous inscrire dans telle formation chez nous. Et en fait, quand ils sont arrivés, c'est pas du tout ce qu'ils avaient prévu de faire. Et donc, en fait, si leur candidature aussi n'a pas été acceptée dans d'autres universités, c'est parce que, en fait, alors j'ai plus le détail parce que c'est leur formation, mais cette formation, elle est spécifique à l'université Toulouse-Jean Jaurès. C'est, oui, voilà, c'est gestion appliquée aux sciences humaines et sociales. Alors qu'eux, ils voulaient faire juste de la gestion. Et donc, quand ils veulent faire de la gestion dans d'autres universités, on leur dit oui, mais il y a un problème de compatibilité entre la formation que vous avez et celle que nous, on propose. Donc, après, l'université de Montpellier se dit prêt à les recevoir. Bon, on attend de voir la suite des événements.
Oui, et malgré les difficultés d'un déménagement et de ce que ça veut hein, signifie de changer de fac, de ville, etc., eh bien, quand même, la plupart des étudiants ont plutôt accueilli favorablement, hein, ils seraient prêts à faire cet effort-là. Hein. Bon, c'est eux qui vont faire l'effort, mais il n'y a pas de confirmation hein, pour le moment.
Non.
C'est une promesse un peu en l'air comme ça. On attend une confirmation écrite, on va dire.
Voilà, c'est ça. Personnellement, je pense qu'on sera rassuré, comme je disais tout à l'heure, le jour où, voilà. On aura le coup de fil des étudiantes et des étudiants concernés. Ils nous diront, voilà, j'ai mon certificat de scolarité dans mes mains. Voilà.
Pour le moment, la discussion, elle se fait que avec le président de la fac et son administration. C'est Daniel Lacroix, d'ailleurs, on peut le citer. On le fait que avec.
On le salue d'ailleurs, si elle nous écoute.
Certainement, ouais. Il doit être à l'écoute de Canal Sud en permanence. Est-ce qu'il y a une. C'est qu'avec lui qu'il y a une. Et son équipe qui a un dialogue, là ou est-ce que, quand même, le rectorat a fini par réagir et par venir vous rencontrer un petit peu?
Alors, le rectorat, on a essayé de les contacter. Plusieurs fois avant l'envahissement. On n'a pas eu de réponse. On n'a pas eu de vraie réponse. Quand on avait rencontré la représentante du rectorat au conseil d'administration qu'on avait envahi, pareil, on n'avait pas de réponse satisfaisante. Après l'envahissement, on avait reçu un mail du rectorat nous disant qu'ils étaient très intéressés pour nous rencontrer rapidement. Je crois que.
C'est d'un seul coup, ils étaient très intéressés.
Ouais, oui, mais c'est aussi ça le but de l'action collective. C'est de montrer qu'en fait, quand on se mobilise, quand on a 200, 300 étudiants qui se mobilisent sur un problème qui dépasse la question de leur fac, d'ailleurs, c'est un problème politique, celui de la sélection, parce qu'on parlait de fragiliser des populations déjà précaires. Et ben en fait, on nous entend. En fait, ce que moi, personnellement, je retiens de ce genre d'action, c'est que le collectif, c'est une arme politique importante qui permet de faire bouger les choses. C'est pas juste on va occuper des locaux et on va faire soirée pyjama tous les soirs à l'université. Non, c'est une occupation qui a une symbolique politique. Elle est non violente et politique. Voilà. Donc, on a échangé essentiellement, à ma connaissance en tout cas, avec la présidence de l'université, qui elle a fait ensuite le tiers entre d'autres universités et le rectorat, oui.
Alors, tu disais tout à l'heure qu'évidemment, cette lutte s'inscrit aussi contre la casse du service public, notamment du service public d'éducation. Tu disais, on avait bien vu avec cette loi votée fin 2016 que ça allait amener ce genre de situation. On peut même aller plus loin. Tout ça s'inscrit dans un long travail de sape de l'université publique entamé depuis les années, au moins les années 90, hein, avec des plans qui se sont succédés. Et aujourd'hui, comment dire, l'aboutissement de tout ça, c'est cette situation-là, mais c'est aussi la fusion des universités qui est en cours à Toulouse et un peu partout en France. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus?
Ouais, je parlais tout à l'heure des outils dégueulasses qu'on donnait aux institutions pour faire le sale boulot de l'État. Bah voilà, tu parlais de la fusion, qui en fait, c'est quoi la fusion? C'est une petite carotte d'enveloppe d'argent au final qui s'appelle l'IDEX, et on dit aux universités, fusionnez entre vous et on vous donnera des sous. Sauf que
après les avoir appauvris.
Voilà, c'est ça. C'est un problème d'argent, c'est un problème de représentativité aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des représentants étudiants dans quasiment toutes les instances de l'université, en tout cas au Mirail. Et en fait, ces instances sont divisées entre personnel administratif, pédagogique, étudiant et ce qu'on appelle des personnalités extérieures. Si la fusion elle est appliquée, les voix étudiantes vont être dérisoires par rapport au nombre de conseillers.
Déjà qu'elles n'avaient pas un impact énorme, hein, il faut le dire.
Ouais, c'est vrai que c'était déjà compliqué, mais disons qu'on arrivait à engranger un rapport de force. Mais là, ça va être de plus en plus compliqué. Et je pense que c'est assez simple de comprendre que des gens qui. Des anciens PDG de boîtes privées, etc., n'auront pas forcément les mêmes soucis en termes de qualité ou de ce que c'est que la mission de l'université, en tout cas, que des étudiants ou des gens qui sont les premiers concernés par la vie de l'université. On parle de la casse du service public, Il y a la fusion, il y a la sélection, et on peut aussi parler du plan étudiant qui a été sorti, là, j'ai plus la date, le 30 octobre. Qui est une solution, enfin, des fausses solutions aux problèmes auxquels font face les universités en ce moment. Alors que, en fait, la solution, elle est toute simple. Il faudrait augmenter le budget de l'enseignement supérieur de 10%, si ma mémoire est bonne, pour qu'on puisse accueillir tout le monde, arrêter d'avoir des TD surchargés à 30-35 étudiants et revaloriser la formation dans le service public. Dans le plan étudiant, là, il y a l'idée de mettre en place des prérequis pour avoir accès aux formations à l'université. Ce qui pend au nez, en fait, des futurs lycéens, en fait, c'est une privatisation de l'accès à l'université. C'est-à-dire, vous voulez faire L1 de psycho, alors il vous faut tel profil, et ben venez faire une prépa à 40, je sais pas combien l'année, et puis après, mais comme ça se fait d'ailleurs pour d'autres filières déjà, comme les filières scientifiques, par exemple, médecine ou le paramédical, etc. Ce qui, et là encore, on va voir, ben, ça va aggraver quelque chose d'évident, c'est-à-dire que ben, les plus favorisés, ceux qui font partie des classes sociales les plus hautes de la société, auront accès au savoir, auront accès à la culture, auront accès à des postes potentiellement après, et la majorité des lycéens et des lycéennes n'auront pas le droit à ce qui devient de plus en plus un privilège.
Les étudiants et étudiantes du Mirail ont été pas mal en grève hein, dans les années passées, ça commence à faire longtemps, mais c'est une fac connue pour sa combativité. À l'époque, dans les années 2000 hein, notamment, il y a eu plusieurs occupations importantes, et pas simplement de la salle du conseil d'administration, des occupations de la fac, et était dénoncée notamment cette privatisation dite larvée, mais enfin elle était à peine larvée, de l'université publique. On voit bien que c'est exactement ce qui se passe, hein, c'est ce que tu décris, les analyses étaient bonnes, mais ces combats ont été perdus, et ils ont été perdus en tout cas sur le déroulé des réformes. Hein. Après, combattre, c'est toujours en soi déjà une première victoire, mais les réformes ont continué et on voit bien que ce combat, il est encore à mener. Du coup, on sent bien là cette occupation sur un cas très précis qui est, ok, on a entre 80 et 100 étudiants qui ne sont pas inscrits, et bien en fait, ça renvoie évidemment à toute cette lutte pour une université publique, gratuite,
pour
ouverte
toutes et
à
tous.
Toutes et tous.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que, donc là, l'idée, c'est clairement d'attendre donc, de savoir ce qui va se passer pour la trentaine d'étudiants toujours sans formation. C'est ça qui donnera le top départ du coup de la fin de cette salle, de la fin de l'occupation.
Alors ça, je sais pas, parce que c'est une décision collective qu'on va prendre ensemble. Après, ce qui est sûr, et je pense que je m'avance pas trop en disant ça, c'est que nous, la lutte, elle s'arrête pas là, parce que c'est pas parce qu'on a inscrit nos étudiants et étudiantes sans fac de cette année que la sélection c'est fini. On voit bien ce que nous prépare le gouvernement pour la rentrée 2018. Donc l'idée, ça va être ensuite de réfléchir à des modalités pour continuer à visibiliser ce problème, à repolitiser le débat à l'université sur ces questions-là, parce que c'est des choses importantes. Tu disais que la fac du Mirail a pas mal bougé. Moi, ça fait 10 ans que je suis au Mirail bientôt, mais je vois aussi que c'est de plus en plus compliqué de s'organiser parce que la fac, c'est la sensation que j'en ai, c'est plus l'espace politique que ça l'était avant. Et du coup, il y a une urgence un peu, il me semble, quand même à ce niveau-là, à aller rencontrer les étudiants et étudiantes et à leur parler de l'autre réalité, pas celle qu'on leur balance dans les médias, comme quoi on peut pas accueillir tout le monde. Moi, il y a un prof qui m'a dit un jour, on peut pas accueillir toute la misère du monde. Cette phrase m'a encore très à chaque fois que j'y pense, je suis encore choqué. Mais
elle renvoyait à d'autres citations politiques bien connues.
Voilà, c'est ça. C'est que j'avais envie de lui dire, vous savez qu'il parle comme ça habituellement. Enfin, donc. C'est effectivement, il faut continuer ces combats-là, et demain on espère que nos étudiants, enfin les étudiants sans fac seront inscrits, et après faudra continuer, faudra préparer la rentrée 2018, sensibiliser les gens sur quels sont les enjeux politiques de la sélection et de l'élitisme à l'université qui va se mettre en place avec notamment le fait que le bac c'est plus suffisant pour aller à l'université. Il faut repolitiser ce débat-là. Ce qu'il faut aussi, c'est peut-être réussir à appeler, alors on l'a fait nous plusieurs fois depuis le Mirail, mais encourager une grève étudiante qui dépasserait le cadre du Mirail, parce que effectivement, si 200 étudiants à l'université arrivent à faire bouger les choses en occupant 15 jours la salle du conseil, et ben peut-être que si on s'y mettait toutes et tous ensemble et pour lutter contre ces problèmes-là qui sont des atteintes directes à c'est pas un caprice hein, de vouloir faire des études. Le statut étudiant c'est pas quelque chose, enfin quand on se bat pour avoir le statut étudiant, c'est pas parce qu'il y a des avantages terribles à être étudiant, c'est parce qu'on veut être étudiant, on a envie d'étudier. Et voilà, et donc il faut repolitiser ces débats-là. Je pense que c'est ça, s'il y a une perspective qu'il faut souligner, c'est qu'il faut repolitiser ce débat-là. Il faut repolitiser l'espace de la fac encore plus, quand c'est déjà le cas, comme un peu au Mirail, je trouve. Et il y a d'autres endroits où il faut réussir à mettre en évidence que les conditions dans lesquelles les étudiants et étudiantes étudient, mais aussi les personnels administratifs. Moi, je suis pas personnel administratif, donc je peux pas parler à leur place, mais on peut pas nier qu'ils travaillent dans des conditions qui sont hallucinantes, quoi, délétères et horribles, et que voilà, on peut que espérer que en politisant le débat, en encourageant toutes et tous à se battre pour de meilleures conditions de travail et de meilleures conditions d'études, on arrive à faire bouger les choses et à battre le vrai ennemi qui est la sélection, qui est cette politique élitiste et d'austérité qui pèse sur les universités. Et peut-être que là, les choses iront un peu mieux au final.
Oui, la lutte continue, on entend. Est-ce qu'il y a un moyen de suivre et cette occupation et l'activité de l'Union des étudiants et étudiantes de Toulouse?
Ouais. Alors, il y a la page de l'Union des étudiants de Toulouse et des étudiantes de Toulouse sur Facebook, l'UET. On tape sur Facebook UET -Union des étudiants et étudiantes de Toulouse. Je crois pas qu'il y ait une page Facebook spécialement pour l'occupation. Après, sur les activités politiques et militantes qui dépassent le cadre de l'UET au Mirail, on a le Mirail mobilisé. Il y a plein de pages Facebook qui relaient des infos.
Oui, on peut citer aussi le CAME, hein, le collectif Automédia étudiant, oui, très actif et dont on passe des sons assez régulièrement. Et puis évidemment, sur cette antenne, on tiendra au courant de la suite de cette occupation. Merci Salim.
Merci à vous.
D'être venu. On vous souhaite à toi et aux autres une lutte fructueuse.
Merci beaucoup.
Et dense. Allez, puisqu'on parlait, puisqu'on était sur l'éducation publique, mais puisqu'on parlait de sans-papiers, on va se faire une petite pause musicale et on va s'écouter ce morceau réalisé par la coordination des sans-papiers de Bruxelles. C'était sorti fin 2016.
Sans papier, nous sommes tous des humains. La liberté pour tous, l'égalité pour tous, justice pour tous, travail pour tous, solidarité pour tous, l'éducation pour tous, fraternité pour tous. Stop aux expulsions, stop aux centres fermés. Pour les amoureux sans papier, pour les enfants scolarisés sans papier, pour les malades sans papier.
Ni frontières, ni nation, liberté de circulation, liberté d'installation.
Donnez-nous les papiers, y'en a marre de crier. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de marcher. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de crier. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de marcher.
Oh là là, oh lélé, solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi.